Chapitre 6. Il s'était passé qu'aussitôt que Sylvain avait vu sa femme s'éloigner pour se rendre chez Soupardin, il était monté à la chambre de Marichette. Doucement, presque avec crainte, en tout cas avec une émotion qui rendait sa main tremblante, il avait frappé à la porte. « Entrez !» Il se glissa dans la chambre. « Mon cousin ?»« Ma pauvre enfant !» Il vint au lit et, se penchant sur Marichette, il l'embrassa tendrement. Il n'y avait pas à se tromper sur ce baiser, c'était celui de la compassion. « Ma pauvre enfant ! Ma pauvre enfant » répétait-il. « Si vous saviez !»« Je sais, ne parle pas de cela, ta cousine m'a tout dit. Il faut te calmer, il faut comprendre que l'affection qui t'a manqué, tu la retrouveras chez ta tante, chez moi, chez les enfants qui t'aimeront comme leur sœur. » Il lui avait pris la main et, en parlant, il la tapotait dans les siennes comme il eût fait pour une petite fille qu'il aurait voulu consoler. « Surtout, il faut comprendre que tu n'as rien à craindre. Nous te défendrons, tu es avec nous, tu resteras avec nous. C'est dit une fois pour toutes. » C'était là de bonnes paroles bien douces pour Marichette, autant par ce qu'elle disait que par leur accent d'émotion sincère, et cependant elle garda sur son visage une expression d'angoisse que Sylvain Belloc remarqua. « Rassure-toi, dit-il, croyant que c'était la peur de retourner à Saint-Maclou qui l'oppressait. « Je te promets que nous te défendrons, tu peux me croire. »«
Je vous crois, mon cousin, mais... »
« Parle franchement, dis-moi ce qui te tourmente. »«
Ce procès !»«
Sois tranquille, il ne sera jamais question de procès. Ces choses-là doivent être étouffées. »«
Mais ma cousine !»
Quand sa femme n'était pas près de lui, Sylvain était brave, et quand il n'avait pas à chercher l'inspiration ou l'approbation dans les yeux de celle qui le dominait, il parlait couramment, sans embarras et avec franchise. « Ta cousine, mon enfant, te porte le plus vif intérêt. Elle a été indignée, exaspérée par ce que tu lui as appris. De plus, elle hait Simon, contre qui elle n'a, par malheur, que trop de griefs. Dans ces conditions, tu dois comprendre qu'elle a pu se laisser emporter. Elle n'a pensé qu'à te venger. Mais sois sûre qu'elle a déjà réfléchi et qu'elle a reconnu que ce procès n'était pas possible, ni à cause de toi, ni à cause de lui. » « Malgré tout, il est mon cousin. Si elle ne s'était pas rendue à ses propres réflexions, sois certaine qu'elle se rendrait à mes observations. »«
Comme vous êtes bon pour moi !»«
N'est-ce pas tout naturel, ma pauvre fille? J'ai des torts envers toi. Si j'avais été voir ta mère quand elle m'a écrit, tout cela ne serait pas arrivé. Je lui aurais expliqué que tu ne pouvais pas habiter sous le même toit que lui et tu serais venu ici. Mais je n'ai pas pu. » « Tu sais, on a des empêchements dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis, à vrai dire, je ne la savais pas malade pour mourir. Depuis que tu es à Saint-Maclou, je me suis reproché cela bien souvent quand je pensais à toi, c'est-à-dire tous les jours. Aussi, quand il a fait de toi sa servante, avons-nous voulu profiter de l'occasion pour te tirer de ses mains. Malheureusement, tu as refusé.
Mais était-il possible de le quitter quand il avait besoin de moi ?»
« Je sais bien, j'ai apprécié tes raisons et j'ai vu que tu étais une brave fille. Enfin, ce qui est fait est fait. Laissons le passé. Je te promets que ta cousine et moi, nous ferons ce que nous pourrons pour que tu l'oublies. Voilà pourquoi il n'y aura pas de procès, ni rien qui puisse rappeler aux autres le temps que tu as passé chez Simon à Saint-Maclou. Tu ne dois plus avoir qu'une chose dans la tête, c'est que tu as enfin trouvé la tranquillité à laquelle tu as droit. » Il lui tendit la main. Et l'affection compte là-dessus. Et il s'en retourna à son travail, la conscience satisfaite. Il avait dit ce qu'il avait à dire et il s'était par là débarrassé jusqu'à un certain point de ses remords. Certainement, sa femme comprendrait que ce procès était impossible et quand il lui aurait montré les conséquences terribles qu'il devait avoir pour Marichette, elle ne persisterait pas dans son idée. Elle avait de l'affection pour cette malheureuse petite. 100 fois, elle avait affirmé sa sympathie pour elle. À chaque instant, elle l'avait plainte, en regrettant de ne pouvoir pas la défendre. Ce ne serait pas dans les circonstances présentes, si lamentables, si graves,
qu'elle ne saisirait pas avec bonheur l'occasion qui s'offrait de lui donner un témoignage de cette satisfaction. Sans doute, sa haine contre Simon se résignerait difficilement à ce sacrifice de sa vengeance, mais l'affection pour Marichette l'emporterait assurément dans son cœur. Ainsi, tandis que la femme se disait « Mon mari ne s'opposera pas à ce procès », de son côté, le mari se disait avec la même certitude « Ma femme ne persistera pas dans son idée de procès. » « Il cédera. » « Elle cédera. » De là, un heure, lorsqu'au premier mot échangé, ils avaient reconnu qu'ils n'étaient disposés ni l'un ni l'autre à céder. « Es-tu fou ? Y penses-tu ? » Comme c'était la première fois que Célanie rencontrait une résistance sérieuse chez son mari, elle était restée un moment suffoquée. Comment ? Il se permettait d'avoir une idée à lui maintenant ? C'était donc le monde renversé ? Mais elle allait mettre ordre à cela. Où irait-il si elle lui permettait la révolte ? Quant à Sylvain, il n'était point trop étonné de ce premier mouvement de résistance, mais il en était peiné. Il aurait été heureux de n'avoir pas à plaider la cause de Marichette et la trouver gagnée d'avance. Une femme intelligente, une femme de cœur comme elle, aurait dû comprendre. Et certainement elle aurait compris si elle n'avait pas été entraînée et aveuglée par sa haine contre Simon. Eh bien, puisqu'il fallait plaider, il plaiderait. « Voici ce que tu vas faire, » dit Célanie qui, comme toujours, prit les devants. « Tu vas écrire au juge de paix du premier arrondissement pour qu'il convoque le conseil de famille de Marichette. Avant la réunion, tu verras les membres du conseil et tu les mettras au courant de ce qui s'est passé, de façon à ce que l'un d'eux demande pour quelle cause Marichette s'est sauvée de chez son tuteur. Alors, la vérité éclatera d'elle-même et le procès s'imposera tout seul sans que tu aies à t'en mêler. » Tu n'as pas réfléchi, ce serait perdre cette pauvre Marichette. Pense quel scandale il y aurait. J'ai réfléchi que c'était le seul moyen de l'arracher des mains de ton cousin. N'a-t-il pas le droit de venir nous la prendre de force ? Il n'usera pas de ce droit. Et s'il en use ? Nous verrons bien. Quand il sera trop tard, n'est-ce pas ? Maintenant, il serait trop tôt. S'il a pu se décider à partir sans l'emmener, il ne reviendra pas. Et s'il revient ? Nous nous défendrons. Alors, le procès ne sera pas évité. Sans doute, mais nous ne l'aurons pas commencé. Et comme de son côté, il ne le commencera pas lui-même parce qu'il aurait trop à y perdre, tu vois qu'il sera évité. Ce que nous devons chercher avant tout pour l'honneur de cette pauvre fille, comme pour le nôtre et celui de nos enfants. Crois-tu qu'il serait fier d'avoir un parent qui aurait passé aux assises ? Voilà le vrai mot de ta résistance. Tu ne veux pas que ton cousin passe aux assises. Eh bien, quand cela serait ? Aurais-je donc tort ? Elle eut un mouvement de colère exaspéré, mais elle n'y céda pas. Et au lieu de lui imposer silence, comme elle en avait l'habitude, elle voulut le réduire par la seule force de la discussion. « Alors tu la sacrifies, » dit-elle. « Avant la pauvre orpheline, tu fais passer le misérable qui nous persécute et nous ruine. » Si dur, si mérité que fût le reproche, il ne s'en fâcha pas. « Ah, Célanie, » dit-il tristement, « tu n'es pas juste. C'est précisément parce que je ne pense qu'à Marichette que je ne veux pas de ce procès. »« Tu ne veux pas ?» Que je trouve ce procès déplorable à tous les points de vue, comme tu le trouveras toi-même quand tu ne seras plus sous le coup de l'indignation. » Elle était trop habile pour s'expliquer franchement sur les raisons qui lui faisaient vouloir ce procès. « Moi aussi, dit-elle, je ne pense qu'à Marichette et c'est pour la sauver que je te demande de convoquer le conseil de famille. C'est ton devoir de subroger tuteur. » « Mon devoir de subroger tuteur, c'est d'agir au mieux des intérêts de Marichette, et c'est ce que je crois faire en évitant ce procès. Au reste, j'obéis en cela, non seulement à mon inspiration, mais encore à la prière de Marichette. » « Tu l'as vu ? Je viens de descendre de sa chambre. » « Ainsi, vous vous mettez tous les deux contre moi. Voilà qui promet. Je te dis une chose, cette petite t'en dit une autre, et c'est elle que tu crois. Que suis-je donc ici, maintenant ?
Ce que tu étais hier, la maîtresse, ce que tu seras demain. Mais demain, quand ton exaspération sera tombée, tu seras la première, j'en suis sûre, à reconnaître que cette lettre ne devait pas être écrite et qu'il est heureux qu'elle ne l'ait point été.
Eh bien moi, je suis sûre aussi que demain tu reconnaîtras qu'elle doit être écrite et que tu l'écriras.
Jamais.
C'est ce que nous verrons.